ça quelques dimanche soir, on est sur Gédéon. Et puis, je prévois même pas ce soir finir Gédéon encore. Mais il y a des perles encore à tirer, à ressortir. Et j'ai ramené mon carton. Je sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois. Je t'avais présenté à quoi ressemblait l'armée des Madianites, qui était l'équivalent, bon, de ce carré de feuilles blancs-là. 135 000 Madianites qui étaient rassemblés pour attaquer. Alors, Gédéon avait amené une armée à son derrière lui, en sonnant les trompettes, en allant chercher les différentes tribus. Et puis, il avait réussi à se trouver 32 000, exactement. 32 000 hommes. Et ensuite de ça, Dieu a dit, il y a un problème. Vous êtes trop nombreux. Vous allez tirer la gloire de cette guerre-là. Même 32 000 contre 135 000, vous êtes trop nombreux. Ça marche pas. Et là, Dieu demande à Gédéon de réduire les effectifs en retranchant qui? Ceux qui ont peur. OK, tous ceux qui ont peur, vous pouvez retourner à la maison, trouver vos femmes et puis aller en paix. Et là, finalement, 22 000 partent, il en reste 10 000. 10 000, imaginez les proportions que ça donnait de 10 000 hommes contre 135 000 hommes qui devaient se battre. Et là, Dieu révèle encore à quoi ressemble le cœur de l'homme. Vous êtes trop nombreux, vous allez en tirer la gloire encore. Vous allez penser que ça vient de vous. Alors, on réduit encore les effectifs. Les troupes étaient probablement fatiguées, assoiffées, les emmènent boire, et puis là, tous ceux qui se plongent la tête pour boire dans l'eau sont retranchés, et ceux qui prennent l'eau dans leurs mains pour laper l'eau, ils l'amènent à la bouche. Il en reste 300, finalement. Alors, imaginez les proportions où ce qu'on était rendu. On s'était laissé avec ce dernier retranchement d'effectifs où ce qu'il restait 300 hommes contre 135 000 hommes. C'est quasiment égal. Et là, dans l'histoire qu'on va voir, vous allez voir qu'il n'y a pas un autre retranchement, mais Dieu envoie Gédéon directement voir l'armée des Madianites. Et Dieu l'envoie un contre 135 000. Mais ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on est dans ces proportions-là. Dieu veut s'assurer de régler le problème de base, qui n'est pas l'esclavage d'un peuple qui a dominé Israël. C'est pas ça le problème. Ça, c'est le bobo de surface. Le problème qu'il y a dans le cœur d'Israël, c'est l'abandon de la foi, que d'avoir abandonné l'Éternel. Et Dieu veut s'assurer qu'en diminuant les effectifs comme ça, que le peuple en vienne à un point que de placer complètement sa confiance en Dieu, que de voir que si Dieu agit avec 300 hommes pour battre 135 000 hommes, qu'il est capable de tout faire et que le cœur d'Israël revienne à la foi et glorifie Dieu sur toutes les facettes de cette victoire-là qui a été donnée. Dieu, on disait la dernière fois qu'il ne s'est pas empressé très rapidement de donner la victoire au moment qu'ils ont crié à l'Éternel, mais c'est ça, Dieu diminue les effectifs. Il est en train d'apprendre à son peuple comment placer sa confiance en lui. Il est en train d'apprendre à Gédéon aussi, avec l'exemple que l'on a de Gédéon, on est en train de voir comment est-ce que Dieu, à travers l'exemple de Gédéon, comment est-ce qu'on peut placer notre foi en Dieu? Comment est-ce que de pas en pas, notre foi s'affermit? Dieu avait dit à Gédéon, je répète encore cette déclaration-là, qui je crois qu'on peut s'approprier, « Va avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as et je t'accompagnerai aussi. » En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous envoie aussi avec la force que l'on a et la grâce de Dieu dans nos incapacités, dans nos manques, dans nos impuissances face à certains événements de nos vies. Ben, la grâce de Dieu vient sur nos vies et Dieu nous accompagne. Dieu ne manque pas à sa promesse. Il ne l'a pas manqué avec Gédéon. Tournez dans Juges, probablement vous y êtes déjà, dans Juges chapitre 7. Gédéon, on avait parlé la dernière fois de la toison. C'était une dernière période, un élément charnière qui allait faire le kick-off, si je peux dire, de la bataille qui s'en allait. Les troupes étaient rassemblées et s'en allaient. On avait vu que Dieu augmente la foi de Gédéon aussi. Dieu a amené Gédéon à avoir la foi en lui, et Dieu a amené Gédéon à ce que sa foi augmente aussi en lui. Alors, comme dans la diminution des effectifs, ben le peuple devait continuer de. On va l'agrandir, notre foi. Il faut en avoir encore plus. Il faut complètement s'attacher à Dieu. Et le point que l'on commence ou que l'on continue ce soir, c'est que Dieu donne, il veut qu'on ait cette foi-là. Il veut augmenter la foi et il veut la fortifier, notre foi aussi. Il veut fortifier notre confiance en lui. Juges 7. On va lire les versets 9 à 15. On s'était laissé, justement, comme je disais tantôt, avec le carton, avec la dernière diminution des effectifs, et on est rendu au verset 9. Peut-être un volontaire qui voudrait lire le verset 9 à 15 de Juges 7. David, merci. OK. L'Éternel aborde Gédéon, puis lui dit: Gédéon, j'ai une mission pour toi. Tu vas aller au camp des Madianites, 135 000, du moins ils étaient, on va le voir tantôt dans Juges 8, là, dans le prochain chapitre, mais ils étaient très nombreux. À quel point? Ils ressemblaient à quoi? À des sauterelles, le sable sur la mer avec les chameaux. Avec les gens, c'était, on imagine, 135 000. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, mais les plus gros rassemblements que l'on voit des fois dans nos grandes villes, c'est 60 000 personnes dans un stade où, mais imaginez fois deux. Alors, et c'est ça, c'est le camp adverse, c'est l'ennemi. Et Dieu envoie Gédéon dans le camp, et puis pour, il dit, va là-bas, et puis j'ai quelque chose à te montrer. Est-ce que Gédéon avait peur? Ouais? Comment? Il est descendu avec son serviteur. Moi, je trouve ça drôle quand je lis ça, parce que Dieu lui dit: Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Puis si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Fin du verset 11. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Mais ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça donnait à Gédéon que d'avoir son serviteur? Ils sont les deux. Et si tu as peur d'aller dans le camp des 135 000, mais emmène ton serviteur. C'est drôle quand même. Mais qu'est-ce qui différencie Gédéon des autres craintifs qui ont quitté dans le premier retranchement d'effectifs? Qu'est-ce qui différencie Gédéon qui avait peur là d'aller voir dans le camp des Madianites? Qu'est-ce qui le différencie, lui, des 22 000 qui ont quitté au début? Lui, il est resté, puis il est allé, même s'il avait peur. Qu'est-ce qui le différencie? Pourtant, c'est s'il avait peur, est-ce que ça lui nuisait dans un sens? Qu'est-ce qu'il devait faire avec sa peur? Ouais. Il allait faire confiance à Dieu. Faire confiance à l'Éternel. Oui, Danny? Ouais. Gédéon se laissait probablement pas, et pas probablement, il se laissait pas contrôler par la peur. Et si je me place dans les souliers de Gédéon, je peux imaginer la peur qu'il pouvait avoir, sans nécessairement la comprendre, parce qu'il s'en allait dans le camp ennemi pour voir ce qui se passait. Et j'imagine qu'il y a quelque chose de normal que d'avoir peur là-dedans, mais en même temps, il est allé. Il l'a fait. Dieu lui a demandé et il l'a fait. Et qu'est-ce que ça donnait à Gédéon que d'avoir un allié, à part que d'être deux contre 135 000? Qu'est-ce que ça donnait à Gédéon que d'avoir cet allié-là? Ils s'encourageaient l'un l'autre. Ouais, OK. Un témoin, dans quel sens tu dis un témoin? Ouais, OK. En quoi ça aidait, en quoi ça fortifiait la peur de Gédéon que d'amener son serviteur? Du réconfort? Ouais. Ouais. Pour s'encourager mutuellement. Est-ce que tu avais levé la main, Gaëtan? Oui. Ouais. Ouais, c'est ça, il est pas bon pour l'homme d'être seul, hein? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, Jean-Pierre. C'est moins pire de se faire tuer à deux que seul. Ouais, ok, deux commentaires, Gisèle, après ça, Serge. Ouais. Ouais. C'est ça, il lui a donné un allié aussi pour aller parler. Dieu l'a équipé de quelqu'un qui allait l'encourager. Oui, Serge. Ouais, c'est ça. Il avait probablement envie de déserter à ce moment-là. Hein? Ok, Simon, après ça, Madame Richard, pour terminer. Ouais. Ouais. Si t'as peur, vas-y. Dieu est compatissant. Dieu voyait certainement le désarroi de Gédéon qui se sentait petit. Vous voyez, prenant ses genoux claqués ensemble. Puis il a dit, si t'as peur, vas-y avec ton serviteur. Oui, Madame Richard. Ouais. Ouais, exactement. L'exemple que l'on a dans. Ben ouais. C'est ça, avec la corde à trois brins est plus solide que la corde à un brin. Ouais. Dieu connaît notre cœur. Il le sait qu'on a besoin d'alliés aussi. Et que même si Gédéon était à un point dans sa marche avec Dieu, où sa foi avait beaucoup augmenté, on a besoin des gens près de nous. Comme David vous vous souvenez David qui se cachait de Saül, qui sauvait puis qui se cachait dans la forêt, puis Jonathan qui venait l'encourager avec des vérités simples. David, c'est toi qui vas être le roi. Oublie pas ce que Dieu t'a dit. Des fois, on les sait les vérités. Des fois, on sait ce que Dieu nous a dit, mais qu'il y a quelqu'un qui nous les rappelle puis qui nous les redit, ben ça nous fait du bien. Puis ça nous encourage aussi. Et Gédéon s'en allait dans le camp avec Pura, son serviteur, et j'imagine que ça devait l'encourager. Et Dieu avait compris le besoin et lui avait proposé, lui avait suggéré aussi. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Gédéon en plein cœur de Madian? Pourquoi est-ce que Dieu a pensé à ce plan-là de dire, on va t'envoyer Gédéon en plein cœur de Madian? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé ce moyen-là? Ouais. Il voulait qu'il constate l'état du peuple, de voir comment est-ce que c'était. Oui, c'est bon. Ouais. Il l'a entendu par son ennemi. Ouais, il l'a entendu par l'ennemi. On va regarder justement un petit peu plus loin la vision. Mais Dave, oui. Ouais. 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 D'avoir un leader convaincu de la victoire. Ouais. Pour le moral des troupes. Ouais, c'est bon. Et il a communiqué son assurance à ses troupes en disant, oui, l'Éternel nous livre entre nos mains, Madian. Ce qui est particulier, c'est que Dieu lui a dit, je livre, verset 9, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Dieu, il s'est pas contenté de dire, Gédéon, crois-moi sur parole, ce qu'il aurait pu faire. Crois-moi sur parole, j'ai livré les Madianites entre tes mains. Vas-y maintenant. Mais là, il dit, Gédéon, descends dans le camp. Va voir, va écouter, puis qu'est-ce qui se passe. Et puis, je l'ai livré entre tes mains. Vas-y avec ton serviteur. Et c'était quoi la mission de l'expédition comme telle? Quelle était la mission de l'expédition? Ouais. Le but de l'expédition, c'était de trouver du courage, d'avoir ses mains fortifiées. Ouais, on va relire le verset plus tard, un peu plus loin, mais il voulait trouver du courage. C'était quoi que Gédéon devait faire? Quelle était sa mission comme telle? Obéir à Dieu, que de se rendre, et une fois sur place, il devait faire quoi? Écouter. Écoute. Descends au camp, puis écoute, puis tu vas trouver du courage. Des fois, dans notre énervement, on oublie d'écouter. On oublie de regarder l'œuvre de Dieu. On oublie de constater comment est-ce que Dieu est déjà présent, comment est-ce que Dieu est déjà au-devant de nous. Et Dieu voulait conduire Gédéon, comme vous avez dit tantôt, dans le camp pour qu'il puisse constater que Dieu est déjà là, que Dieu a déjà commencé son œuvre dans le camp des Madianites. Et ça allait fortifier ses mains, ça allait fortifier son cœur, son courage. Mais il devait descendre et écouter. Écouter qu'est-ce qui se passait. Verset 11, « Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il est descendu, verset 12, « Il était dans la vallée comme une multitude de sauterelles, les chameaux étaient innombrables comme le sable de la mer. » Et là, verset 13, Gédéon arrive, et c'est intéressant, comme Gédéon y arrive, il y a un gars qui est en train de raconter un songe à son camarade. Quel était le songe? Qu'est-ce qu'il a vu comme songe, le Madianite? Un pain, OK? Il était assez gros pour renverser une tente. Il était assez gros, le pain d'orge, regardez le verset 13. J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Elle l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce que son camarade a compris? Ouais. Ouais. La tente était renversée. C'était Gédéon. Son camarade avait compris que le pain d'orge, certainement, qui avait compris que c'était de cette culture d'où Gédéon venait, versus la tente, qui était la culture des Madianites. Vous vous souvenez, on avait parlé des Madianites, qui étaient des nomades et qui étaient sous des tentes. Et ce pain d'orge qui venait rouler pour renverser la tente des Madianites, c'était très significatif et ils ont compris rapidement. Et son camarade lui a répondu, c'est certainement, ça peut pas être autre chose que l'épée de Gédéon, verset 14, fils de Joas, homme d'Israël. Probablement qu'ils avaient entendu parler des troupes que Gédéon est en train de rassembler pour venir les attaquer. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Quel a été le résultat de la révélation de Dieu pour Gédéon? Quel a été le résultat de l'écoute que Gédéon a eu dans le milieu du camp? Ouais, OK. Il était reconnaissant de ce que Dieu... Ouais. Il s'est prosterné. Il a reconnu la main de Dieu. Il a reconnu, comme je disais tantôt, que Dieu était déjà au-devant de lui puis que Dieu était en train de préparer le terrain. Dieu est en train de fortifier la foi de Gédéon. Dieu dit à Gédéon, place ta foi en moi, fais-moi confiance. Et en ayant placé sa confiance en Dieu, ben Gédéon s'en va dans le camp des Madianites. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu solidifie, il fortifie la foi de Gédéon pour dire, regarde Gédéon, je suis déjà à l'œuvre. fais-moi confiance, continue de marcher pour moi. Et c'était pas un hasard si Gédéon est arrivé à l'avant-garde et tout à coup il entend un homme raconter son songe, puis que le camarade il dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Puis Gédéon il est là pour l'écouter, puis il dit, ça c'est l'épée de Gédéon. Ça peut pas être autre chose que ça. Et là Gédéon, regardez verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Comme on disait tantôt, ce leader, maintenant Gédéon, que Dieu utilisait, ce libérateur-là, maintenant était particulièrement motivé et convaincu par la révélation que Dieu venait de lui accorder par ce songe-là. Comment est-ce que cet épisode-là de la vie de Gédéon trouve application dans ma vie? Comment est-ce que ça se met en pratique dans ma vie? Dieu nous donne tout pour nous mettre en confiance, parce qu'il veut qu'on soit des gens qui avancent dans la vie chrétienne. Dieu veut augmenter notre foi, il veut la fortifier, mais il veut qu'on écoute aussi. Et évidemment, la foi qu'on trouve, où qu'on la trouve, la foi, comment est-ce qu'on la trouve, la foi? Dans ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a besoin d'ouvrir nos oreilles. On a besoin d'être attentif à ce que Dieu a à nous communiquer pour justement augmenter notre foi et la fortifier aussi. Tournez dans Juges, ben vous êtes déjà là, dans Juges 7. On va continuer de lire les versets 16 à 25. Quelqu'un qui voudrait lire les versets, en fait, on va lire. Ouais, on va lire 16 à 25, puis après ça, on va revenir sur les sections. Un volontaire? Merci, David. OK, merci. On a l'accomplissement, justement, de cette fois-là, que ces 300 hommes-là se rendent aux abords du camp. Des Madianites qui sont 135 000 hommes. Et là, ils vont user d'une stratégie militaire encore jamais vue. Et regardez le verset 16. Il divisa en trois quarts les 300 hommes et il leur remit toutes les armes qu'ils avaient gardées, c'est-à-dire des trompettes, des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. Dieu avait donné des moyens. Tout à fait intéressant de voir pour attaquer son ennemi. Et quelle était la stratégie militaire? Comment est-ce qu'il allait l'utiliser? Il y avait trois camps. Ouais. Pourquoi Dieu utilise ces moyens-là? Pourquoi Dieu utilise des cruches, des flambeaux et des trompettes? Pour 135 000 hommes, ils sont 300 hommes. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des moyens comme ça? Oui, Danny. Ça dépend comment tu joues de la trompette. Oui, c'est ça. Vous voulez quelqu'un une arme de destruction massive. Dieu, pourquoi est-ce qu'il a utilisé ces moyens-là? Encore parce que c'est lui qui agit. Dieu veut se glorifier à travers les choses qui nous semblent viles, qui nous semblent sans importance, des cruches, des flambeaux, des trompettes. Les 300 hommes, chacun d'entre eux, étaient équipés de cet armement-là pour aller près du camp. Et avec les cruches, les trompettes. Et la stratégie militaire était d'avoir les 300 hommes qui étaient divisés en trois camps. Et Gédéon avait dit, quand je vais sonner de la trompette, ben vous allez sonner de la trompette aussi. Finalement, vous allez faire ce que je vous dirai de faire. Quand vous allez voir que je sonne de la trompette, vous sonnez de la trompette. Et on va se placer tout autour du camp. Et verset 19, Gédéon, les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille de la veille du milieu. Il y avait trois veilles dans la nuit. Et là, on est au commencement de la deuxième veille. Et ils approchent, ils sont vraiment dans le milieu de la nuit. Ils sont vraiment pris par surprise. Tout le monde est dans un profond sommeil, comme on venait de placer la nouvelle garde. Et puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent, fin du verset 19, à sonner de la trompette, à briser les cruches qu'ils avaient en main. Et là, ils avaient les flambeaux dans les mains. Les 300 hommes sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches et saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Dieu est en train de délivrer Israël de ces années d'asservissement-là par un moyen tout à fait incroyable, d'une stratégie militaire qui ne peut revenir tous les honneurs uniquement qu'à Dieu. Il brise les cruches, j'imagine, pour réveiller les gens qui se réveillent en catastrophe, 300 hommes qui sont autour du camp. Et là, tout à coup, ils entendent sonner de la trompette. Si une trompette, par exemple, est pour 100 hommes ou pour peu importe X nombre de personnes qui dirigent une troupe, mais là, eux, ils se réveillent et ils se disent « on est entouré ». Si une trompette puis un flambeau là, puis là, puis là, comme ça tout le tour, et derrière eux, ils ont une multitude encore derrière chaque flambeau et chaque trompette, on est fait. Ils se réveillent comme ça en catastrophe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, les Madianites se réveillent et sont tellement énervés, ils se mettent à courir dans tous les sens. Et puis, dans le milieu de la veille, ils sont vraiment dans le milieu de la nuit. Et là, ils sont tellement énervés qu'en prenant leur épée, il y a le camarade finalement qui court en face, puis il va l'éliminer lui-même, pensant que c'est l'ennemi qui est en train de pénétrer dans le camp. Et Dieu est en train de faire tourner le camp des Madianites contre lui-même. Dieu est en train de révéler sa délivrance au sein du milieu avec les Israélites, dont les Madianites étaient attaqués par 300 hommes en réalité. Les versets 22, juste relire le verset 22, les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Bethshitta, vers Tzerera, jusqu'aux abords d'Abel-Méola, près de Taba. Les 300 hommes ont sonné la trompette. Et pourquoi est-ce que ces hommes-là sont morts? Parce que Dieu est intervenu. Puis Dieu a fait tourner l'épée les uns contre les autres. C'est pas la main, elle sera pas long, Naomi, j'ai vu ta main, mais c'est pas la main de l'homme qui a donné la délivrance. C'est pas la main de Gédéon. C'est pas ces 300 hommes-là qui étaient des super guerriers. C'est Dieu qui était présent. Dieu le savait. Et je suis convaincu qu'il y avait déjà probablement une terreur qui s'était établie dans le camp des Madianites de la main de l'Éternel. Vous vous souvenez, le camarade, il disait, l'Éternel est en train de nous livrer entre les mains de Gédéon, le Dieu des Israélites. Et il commençait à comprendre qu'il s'était probablement fait à cause que Dieu avait déjà commencé à placer les choses en place. Oui, Naomi? Ouais. Si je réponds à la question dans une première compréhension que j'aurais, ben c'était un cri de guerre pour l'Éternel et pour Gédéon qui était le chef de guerre aussi. Je pense que bien que Gédéon, on va voir dans la fin du chapitre 8, il remet vraiment toutes les honneurs à l'Éternel. Mais les Madianites reconnaissent que l'épée de Gédéon est au devant de cette troupe-là, de l'armée. Et j'imagine que le cri de guerre, les gens comprenaient que l'Éternel et Gédéon, ils comprenaient c'était quoi qui se passait et de qui ça venait aussi. Oui, M. Dumont. Ouais. C'est ça. Ils savaient qu'ils avaient déjà entendu le nom de Gédéon. Oui, Serge? Dieu avait choisi Gédéon. Gédéon était le chef de l'armée et ce n'était pas un acte d'orgueil. Du moins, je ne l'interpréterais pas comme ça. Mais pour l'Éternel, pour Gédéon, un cri de guerre, premièrement. Et deuxièmement, ça révélait aussi que Gédéon était le chef, choisi par Dieu. Mais que Gédéon, on voit, comme je disais tantôt à la fin du chapitre 8, qu'il sait que c'est Dieu qui doit dominer et pas lui. Et ils ont gagné sur le camp, les gens se lèvent, se tournent l'épée les uns contre les autres, ils réussissent à s'enfuir, ils se sauvent. Plusieurs hommes sont morts dans cette soirée-là, dans cette nuit-là. Les hommes d'Israël se rassemblèrent. Là, on rallie les troupes plus larges que 300 hommes, c'est-à-dire qu'on va chercher des différentes tribus, Nephtali, Aser et Manassé. Poursuivre Madian. Et verset 24, Gédéon a envoyé des messagers dans les montagnes d'Éphraïm aussi pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, parce que là, on en a fini avec eux. C'est terminé. Le joug, il se termine aujourd'hui. Coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Rabba, Beth-Bara et celui du Jourdain. » Puis tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et s'emparèrent du passage des eaux et puis ont barré le passage. Il y en a d'autres qui ont réussi à s'enfuir. Il y en a 15 000 qui réussissent à passer. Mais il y en a plusieurs qui meurent à ce moment-là. Et deux chefs de l'armée qui étaient connus, j'imagine, sous Madian, Horeb et Zeeb. Et je ne pense pas que c'est un hasard qu'on appelle le rocher de Horeb et de Zeeb, le pressoir. Évidemment, ces lieux-là portent le nom de ces deux chefs-là qui ont été mis à mort à cet endroit-là. Et Gédéon, la fin du verset 25, « Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zeeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. » On se retrouve un petit peu plus loin maintenant dans la bataille où ce que Gédéon est rendu de l'autre côté du Jourdain. Dieu vient de donner une victoire. Dieu est en train de briser le joug de l'esclavage qu'Israël avait parce que ça a commencé avec la foi. Israël a placé sa foi en l'Éternel. Et la foi les a menés à la délivrance. Et avant d'avoir la délivrance, ils devaient revenir à la foi. OK, on continue de lire rapidement. Dans le chapitre 8, on va lire chapitre 8, on va fermer ça avec ça. Trois principes. Gédéon devient une inspiration pour Israël. Gédéon devient un leader pour Israël, où ce que Israël va revenir à la foi. Revenir à l'unité, revenir à la solidarité, si je peux dire, au sein d'Israël. Quelqu'un qui veut lire les versets 1 à 3? OK, Jacinthe. OK. Gédéon, il règle un différend avec Éphraïm. Les gens d'Éphraïm sont mécontents que d'avoir été sollicités pour la guerre au moment que la victoire était déjà en train d'être prise, ou ce que l'armée adverse est en train de s'en aller. Et les gens d'Éphraïm, ils disent à Gédéon, « C'est quoi cette manière-là d'agir avec nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Et qu'est-ce que Gédéon répond à Éphraïm? Oui, et oui, et aussi le peuple qui se sauvait, le peuple des Madians qui se sauvait, verset 23-24, ben ont été interceptés, probablement, dans les montagnes d'Éphraïm. Et ce que les Madianites avaient été tués par les gens d'Éphraïm avaient été très nombreux aussi. Et comparativement à ce que la famille d'Abiézer est une famille dans Manassé et dont est issu Gédéon. Et Gédéon, il dit, ce que j'ai fait, j'ai glané comparativement au grappillage que toi t'as fait de tout ce que t'as ramassé. Alors, il règle le différend au verset 3 pour dire à Éphraïm, on vous a pas méprisé, on voulait pas vous tasser de là, mais vous allez participer à la victoire aussi. Ces éléments-là qui se passent, qui se produisent, je crois qu'ils sont nécessaires à rétablir l'union, l'unité, rétablir la solidarité au sein d'Israël qui avait été probablement divisée ou éteinte pendant un temps à cause justement de l'esclavage. Dans les versets 10 à 12. Quelqu'un qui voudrait lire les versets 10 à 12, puis tout de suite après, un autre volontaire, 18 à 21. OK, 10 à 12, Serge, puis Paul, 18 à 21. Chapitre 8, versets 10 à 12. OK, on saute au verset 18 jusqu'à 21, s'il te plaît, Paul. OK. Gédéon, il poursuit les deux rois, Zébac et Tsalmuna. On a tué les deux chefs tantôt. Maintenant, on a les deux rois qui sont encore en vie. Ils se sauvent avec 15 000 hommes. La victoire complète et définitive allait être accordée à Gédéon par ce peuple-là qui avait méprisé l'Éternel, qui avait méprisé le peuple d'Israël aussi. Et les rois, comme les chefs, Gédéon courait après pour les éliminer. Zébac et Tsalmuna. Gédéon les a poursuivis dans les chemins que montent ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nabat. Et puis, l'armée qui se croyait en sûreté m'ont été surpris par Gédéon. Et là, Gédéon les a poursuivis. Et à la fin, verset 18, ben là, ils ont été capturés justement par Gédéon, par les 300 hommes. Ces 300 hommes-là encore qui étaient pendant la nuit autour du tour de Madian est à la poursuite des 15 000 qui sont en train de se sauver avec les deux rois. Alors, on imagine que les 15 000 hommes protègent ardemment les deux rois, mais les 300 hommes qui ont passé la nuit blanche courent encore après ces hommes-là pour capturer les deux rois. Et là, il les emmène et puis il dit « Qui vous avez tué à Tabor? » Puis ils répondirent et ils étaient comme toi, verset 18. Chacun avait l'air d'un fils de roi et Gédéon a dit « C'est mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous aurais pas tué. » Et puis là, maintenant, il demande à son fils de tirer l'épée contre ces deux rois-là. Et l'enfant n'a pas le courage de le faire. Et Gédéon le fait. Et il tue les deux rois de Madian. C'est un événement un peu dur. Quand on lit ça, c'est pas dans nos mœurs, c'est dans nos coutumes, dans nos habitudes que d'entendre des histoires comme ça. C'est un peu dur. Et ce qui me permet de dire que Dieu a approuvé cette finalité-là, c'est entre autres le psaume 83, le psaume d'Azaph qui dit « Ces peuples-là qui méprisent ton nom, qui méprisent ton peuple, mais traite-les comme Madian. » Et Azaph, il cite même Horeb, Zeeb, « Traite-les comme Madian, traite-les comme les chefs de Madian. » Et il cite les deux rois qui sont là présentement, qui ont été tués par Gédéon. Azaph, il dit « Traite-les aussi comme ces deux princes-là qui ont été tués, afin qu'ils craignent ton nom, j'imagine les autres peuples, afin qu'ils entendent parler de l'Éternel et qu'on ne se moque pas de l'Éternel non plus. » Alors Gédéon règle le cas des rois de Madian. Il a réglé un différend avec Éphraïm en rassurant encore qu'ils étaient encore bien unis. Il règle le cas des rois de Madian, le cas de Madian au complet, parce que d'avoir tué les chefs, d'avoir tué les rois, c'est vraiment une victoire définitive et complète. Comme je vous dis, je vous laisserai lire le psaume 83, si vous voulez, pour vous-même, qui est le psaume d'Azaph, qui parle justement de ces quatre noms-là qu'on vient de citer. Et pour terminer aussi, il y avait, comme je disais, la solidarité au sein d'Israël qui était en train de flancher un peu, là. Que les gens d'Israël, les gens de Gad, parce que de l'autre côté du Jourdain, où ce que Gédéon s'est retrouvé pour poursuivre les gens. Il y avait Gad, il y avait Manassé, encore à ce moment-là, qui traversait. Et Gédéon les poursuivait. Et puis, dans les versets 4 à 9, deux volontaires, on termine avec ça rapidement. Deux volontaires qui vont lire les versets 4 à 9, puis un autre volontaire qui va lire 13 à 17. Toujours dans le chapitre 8. 8, 4 à 9. OK, René? OK, un autre volontaire qui va lire les versets 13 à 17, quand il est de retour. OK, Paul. OK, un autre épisode un peu dur. Gédéon, il court avec ses 300 hommes. Ils ont passé la nuit blanche, comme je vous disais tantôt. Ils courent, ils sont de l'autre côté du Jourdain, finalement. Ils courent après les deux rois. Et là, ils sont fatigués. Verset 4. Fatigués, mais poursuivant toujours. Ils sont arrivés à Sukkot. Et puis là, ils demandent de l'aide. Aidez-nous. On a soif et on a faim. Qu'est-ce que les gens de Sukkot y répondent? Est-ce que vous avez vraiment gagné, là? Êtes-vous vraiment en contrôle? Êtes-vous vraiment une armée crédible? 300 hommes qui sont en train de courir après des rois qui, eux, sont 15 000 et ils sont sceptiques, j'imagine. Et non, 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 on ne vous donnera rien. Allez-vous-en. Et Gédéon, une parole dure. Je vais revenir et je vais vous broyer la chair avec les épines du désert. Vous allez être châtiés. Et là, il arrive au verset, mais il arrive à l'autre ville, pas très loin, j'imagine, encore de l'autre côté, Pinuel, et ils lui font la même phrase encore. Non, 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 organise-toi tout seul, et on te fournira pas des vivres pour 300 hommes pour te nourrir, pour te donner à boire. Et là, Gédéon, il a dit la tour, je vais la renverser. On n'a pas beaucoup de détails sur le lieu comme tel de cette ville-là, particulièrement Pinuel, mis à part qu'on sait qu'il y avait une tour. Et je dis bien, il y en avait une, parce que après Gédéon, il n'y en avait plus. Et là, Gédéon, il revient, et là, il vient régler le cas des villes de Sukkot et de Pénuel. Dans les versets 13 et 17. Il rencontre un jeune homme en route, et puis il lui dit, écris-moi sur la feuille ici, là, avec le crayon, là, les chefs et les anciens de la ville, 77. Gédéon arrive, et puis finalement, il châtie. Les gens, les anciens de la ville, là, ils vont à l'autre ville, renversent la tour, et puis finalement, verset 17, ils renversent aussi la tour de Pénuel et tuent les gens de la ville. C'est encore, comme je disais tantôt, des événements qui sont durs, des événements qui ne sont pas évidents à regarder, mais je crois, comme je disais tantôt, qu'il y avait une unité, une solidarité qui avait été perdue. Un abandon non seulement de l'Éternel, mais de la loi de l'Éternel aussi, en ce qui concerne de prendre soin des gens comme ça, de la personne qui demande de l'aide comme ça, et les gens devaient les aider. Et Gédéon, à travers cet exemple-là qu'il donnait à tout Israël, je crois, a permis que Israël comprenne que l'Éternel, la foi en l'Éternel est de retour. La loi de l'Éternel, on va la serrer dans nos cœurs, on va lui obéir. Et Israël vient régler un différend qu'il y a eu avec Éphraïm, a réglé le cas des rois de Madian, et finalement a aussi réglé une unité qui n'existait plus beaucoup, une solidarité qui n'existait plus avec les villes qui étaient là. Je veux qu'on termine avec les versets 22-23. Je ne vous ai pas posé beaucoup de questions sur ces textes-là, mais de toute façon, le temps est bien avancé. Mais verset 22-23, qui conclut bien la foi, la fermeté que Gédéon est en train de prendre avec Dieu, dans sa marche avec lui, dans sa foi avec lui. Verset 22-23, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon avait compris que c'était préférable que ce soit Dieu qui domine sur Israël et pas un homme. Et Gédéon a refusé ces honneurs-là de dominer sur Israël. Et on parle ici d'Israël. Comme je disais tantôt, il y a des exemples qui ont été donnés à deux villes qui offraient pas beaucoup d'hospitalité, de solidarité, d'union. Mais tout Israël a compris. Tout Israël a compris, puis il disait à Gédéon, « Domine sur nous. » Pourquoi Gédéon a refusé de dominer sur Israël rapidement? Oui. Il sait que c'est Dieu qui a tout opéré, le prodige, la délivrance, la liberté. Gédéon reconnaissait que c'était préférable que ce soit Dieu. Qu'est-ce qu'il avait appris de Dieu dans sa marche à partir du début que Dieu est apparu, puis il a dit « Gédéon, vaillant héros », jusqu'à ce moment-là où il dit « J'ai compris que Dieu doit dominer sur vous, que ça vous est préférable. » Qu'est-ce qu'il a compris de la personne de Dieu qui l'a amené à donner toute la gloire à Dieu puis à lui donner toute domination, à lui faire confiance? Comment? Puis à dépendre de lui, lui faire confiance puis à dépendre. Excusez-moi. Ouais. Dieu est digne de notre confiance. Dieu libère de cet esclavage-là. Oui, Danny. Ouais. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Dieu nous donne sa parole, il fait grandir notre foi, il l'augmente, il la fortifie, et ce qu'il dit, il le fait. Et Dieu domine, doit dominer nos vies. Parce que c'est beaucoup plus efficace, ce ne sera pas long, Jean-Pierre, j'avais vu ta main, c'est beaucoup plus efficace que quand on vient à un point où ce que probablement on a tous déjà fait ça, comme moi je l'ai déjà fait, hein, on essaie ça de régler par nos propres forces. On va régler ça de par nos propres moyens, de par nos propres forces, mais Dieu, quand il a déterminé un plan, il est capable de l'accomplir, ce qu'il a dit. Oui, Jean-Pierre? Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. La foi que l'on a en Dieu nous emmène à la victoire aussi dans nos vies. Mais ça commence par là. Israël, quand il sera délivré, même de son oppression actuelle, pourquoi est-ce qu'un jour Israël va être délivré? Parce qu'il va revenir dans son pays? Parce qu'il va avoir fait confiance à Dieu, parce qu'il va revenir à la foi. Et là, il va être délivré. Nos vies, Dieu veut qu'on soit des conquérants, des gens qui vivons victorieusement par la foi en lui. Pas d'une façon très orgueilleuse humaine, de comme Gédéon n'a pas fait, mais comme ce que plusieurs héros de guerre auraient pu faire. Gédéon a compris qu'avec Dieu, en plaçant notre foi en lui, en vivant dans l'humilité, dans notre marche avec lui, Dieu nous accorde des victoires, ce qu'Israël a compris aussi en bout de ligne, et pour quelque temps, jusqu'à la prochaine. OK, on arrête là. Seigneur, on vient encore devant toi pour te dire merci. On est vraiment reconnaissant de ta parole qui parle à nos cœurs, qui donne une direction à nos vies. Seigneur, ta parole est remplie de vérité, c'est la vérité. Et quand on l'applique, Seigneur, on voit la délivrance aussi. Et on peut tous dire, Seigneur, si on a goûté le salut que tu nous as donné par Jésus-Christ, qu'on a goûté la victoire, qu'on a goûté, Seigneur, la délivrance de nos péchés et qu'on vit la liberté avec toi, en toi. Par la foi aussi, on continue de marcher avec toi. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.